Vous invite à ouvrir la Bible dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Nous lirons quelques versets que Michel a choisis pour introduire sa prédication ce matin. Donc, première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, et nous lirons à partir du verset 1er. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi, nous prions, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. Que l'Éternel bénisse l'influence de sa parole dans nos cœurs.
Bien, c'est toujours un plaisir de se retrouver devant vous pour parler de la parole de Dieu. Nous vivons dans un monde qui est en combat permanent. Satan veut s'emparer de nous à tout prix. Parfois, nous avons l'impression qu'il commet des hold-up et résister par nos propres moyens est une chose impossible. Nous avons besoin de Dieu et nous en sommes tous conscients. Il est notre créateur, notre libérateur. Mais Dieu veut se servir de nous afin de nous montrer à toutes les créatures terrestres et célestes que le seul chemin est celui qu'il a tracé pour chacune de ses créatures. À l'âge de 12 ans, Jésus a expliqué « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. » Et 21 ans plus tard, il s'est écrié sur la croix « Tout est accompli. » Ces deux affirmations ont encadré une vie exemplaire. Jésus a entièrement accompli la mission que le Père lui avait confiée. Sa mission, c'est maintenant la nôtre. Car nous sommes le corps de Christ. Ce qu'il a fait dans son corps physique, nous devons le continuer, car nous sommes son corps spirituel, l'Église. Nous avons une mission, faire connaître Dieu par Christ aux hommes. Dans 2 Corinthiens 5 et au verset 18, Paul dit « Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. » Le Tout-Puissant veut libérer les êtres humains de l'emprise de Satan et les réconcilier avec lui afin de leur permettre d'accomplir les objectifs pour lesquels il les a créés. Il nous a créés. L'aimer, faire partie de sa famille, le servir et parler de lui aux autres. Une fois que nous sommes à lui, Dieu se sert de nous pour toucher les autres. Il nous sauve, puis il nous envoie. Dans le verset que vient de lire Bernard, Paul souligne l'importance de son message, plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Paul sait de quoi il parle. Il faisait partie de la haute autorité juive qui a renié Jésus-Christ. Jésus a appelé Paul sur le chemin de Damas. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Paul était persuadé qu'il faisait bien, mais le Seigneur l'a fait changer de direction Au lieu de persécuter les chrétiens, il va maintenant prêcher Christ, et c'est un retour sur lui-même à 180 degrés. Paul dit donc au chapitre 1 et au verset 5 des Thessaloniciens, « Parce que notre évangile ne nous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. » Paul nous fait découvrir ce que signifie annoncer l'évangile. Notre annonce de l'évangile n'a pas été seulement des discours. L'apôtre Paul engage toute son existence dans cette annonce à travers des luttes et des épreuves. Il livre sa propre vie pour que celle-ci rende un témoignage vivant à l'évangile. Rappelons-nous ce qui s'est passé à Philippe. Il a été maltraité et persécuté. Cela ne l'a pas découragé ni arrêté dans son élan. À la manière de Jésus, en suivant son chemin, dans une grande cohérence entre ses paroles et ses actes, il montre dans sa vie la bonne nouvelle, la tendresse de Dieu pour l'humanité. Il y a dans Ésaïe un texte magnifique qui parle de la tendresse de Dieu envers son peuple. Je crois que c'est, si mes souvenirs sont bons, je ne l'ai pas noté, mais c'est Ésaïe 54. Le Seigneur montre combien il aime ses enfants d'une manière individuelle. Il dit ceci, « Les montagnes peuvent bouger, les collines changer de place, mais mon amour que j'ai pour toi ne changera pas. C'est moi, le Seigneur, qui te dis cela dans ma tendresse. » J'avais envie de souligner ces paroles tant c'est grand et puissant. Bien que Paul ait une grande culture, il enseigne d'une manière simple et avec beaucoup d'amour ce qu'il a reçu de notre Seigneur. Nous sommes des ambassadeurs envoyés par le Christ. Nous sommes les messagers de l'amour de Dieu et de ses projets pour le monde. Notre mission est la suite de la mission de Jésus sur la terre. En tant que disciples, nous devons poursuivre ce que Jésus a commencé. Jésus ne nous a pas seulement appelés à venir à lui, mais à aller pour lui. Cette mission est si importante que Jésus l'a répétée plusieurs fois de façon différente à des moments différents, comme s'il voulait nous dire « Je désire vraiment que vous compreniez bien cela ». Si nous étudions ces ordres de mission de Jésus, nous comprendrons le détail de notre mission sur terre. Quand et où? Là où je me trouve et dès que j'en ai l'occasion. Pourquoi et comment? Parce que j'ai lu, Jésus me l'a commandé, que cela donne un sens à ma vie, et en me mettant à son service. Une des paroles importantes de Jésus, que vous connaissez bien, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Cet ordre a été adressé à tous les disciples de Jésus, et pas seulement aux pasteurs et aux missionnaires. C'est notre mission, et elle n'est pas facultative. Cette parole de Jésus ne correspond pas à une proposition. Si nous faisons partie de la famille de Dieu, cette mission est obligatoire. Il n'y aurait serait désobéir. Est-ce que nous réalisons que le Seigneur nous tient responsables des personnes qui ne croient pas et qui vivent autour de nous? Ézéchiel le précise bien au chapitre 3 et au verset 18. Il nous dit « Si tu ne l'avertis pas d'avoir à changer sa conduite afin qu'il puisse vivre, ce méchant mourra à cause de ses fautes. Mais c'est toi que je tiendrai pour responsable de sa mort. » Ce sont des mots forts qui donnent à réfléchir. qui bousculent dans notre fort intérieur et nous font prendre conscience de la responsabilité individuelle que nous avons en tant que chrétiens. Nous sommes peut-être le seul chrétien que nos voisins ou nos connaissances auront la chance de connaître. Et nous avons le devoir de parler de Jésus. Notre mission est un merveilleux privilège. Travailler avec Dieu et le représenter. Nous devons participer à la construction du royaume de Dieu. Et Paul nous appelle des collaborateurs et il déclare « Nous travaillons avec Dieu ». Jésus nous a offert le salut, nous a introduits dans sa famille. Quel privilège ! Que nous dit Paul ? Nous sommes des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Si notre voisin avait le cancer ou une autre maladie grave et que nous connaissions le remède, nous serions un criminel de ne pas le lui dire. C'est encore plus grave de garder secret le chemin qui mène au pardon, à la paix et à la vie éternelle. Nous connaissons la meilleure nouvelle du monde et en faire part et l'acte le plus généreux que nous puissions accomplir en faveur de quelqu'un. Notre problème, à nous qui sommes chrétiens depuis longtemps, c'est que nous avons oublié comment nous nous sentions sans Christ. Même si les gens ont l'air satisfaits, épanouis, sans Christ, ils sont perdus et ils resteront séparés de Dieu pour l'éternité. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ, nous dit le texte dans Actes 4 et au verset 12. Tous les hommes ont besoin de Dieu. Nous avons trop tendance à dire « Je n'ai pas le temps, je suis désolé, je n'ai pas de don, etc. » Est-ce que Dieu aura le temps de s'occuper de nous ? À la fin de notre vie terrestre, nous nous tiendrons devant Dieu. Et il jugera la façon dont nous avons servi les autres. Au verset 12 du chapitre 14 de l'Épître aux Romains, il est dit « Que chacun de nous en rendra compte pour lui-même à Dieu ». Quelle responsabilité ! Un jour, l'Éternel comparera le temps et l'énergie que nous avons gardé pour nous-mêmes avec le temps et l'énergie que nous avons donné aux autres. Notre égoïsme ne pourra alors pas être justifié par des excuses telles que « j'étais trop occupé, je voulais atteindre un but dans ma vie » ou « j'étais trop pris par mon travail, mes loisirs » ou « la préparation de ma retraite ». Dieu me répondra « je suis désolé, mais cette réponse n'est pas valable. Je t'ai créé, sauvé, appelé et je t'ai ordonné de vivre pour accomplir une mission. Quel terme n'as-tu pas compris ? » Jésus a dit dans Matthieu 24 et au verset 26 « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour la bonne nouvelle la sauvera. » Annonçons l'Évangile autour de nous, dès maintenant. Nous aurons toute l'éternité pour nous réjouir avec ceux que nous aurons conduits à Jésus. Mais nous ne pouvons les amener au salut que pendant notre séjour sur terre. Si nous n'accomplissons pas la mission que le Seigneur nous a confiée, nous perdons notre temps. Et Paul nous dit dans Actes 20 au verset 24, « Ma propre vie ne compte pas à mes yeux. Ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission et d'achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus, proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Notre mission, aujourd'hui, c'est de protéger l'unité de notre Église pour en faire une force, notre force. Le Seigneur désire sincèrement que nous expérimentions l'union et la communion fraternelle. L'unité est l'âme de la communion fraternelle. Et si nous la détruisons, nous arrachons le cœur du corps de Christ. Elle est l'essence et le cœur de la vie de l'assemblée voulue par Dieu. Notre modèle d'unité suprême, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont totalement unis pour ne former qu'un. Dieu est lui-même le plus bel exemple d'humble bienveillance envers autrui et de parfaite harmonie. Rappelons-nous que le Seigneur a choisi de nous donner des personnalités, des races, des goûts différents. Nous devrions donc les apprécier et nous en réjouir. Et pas seulement les tolérer. Le Seigneur veut l'unité et non l'uniformité. Ce qui a fait la force de l'Église de Thessalonique, c'est son unité. Pas n'importe laquelle unité. C'est une amitié parfaite qui unissait cette Église. Une amitié, un amour fraternel. Et je n'ai pas résisté au plaisir de vous lire un texte d'un auteur inconnu qui exprime bien ce qu'est l'amitié. L'amitié est une forme d'amour qui unit des êtres en fonction de diverses affinités et elle leur permet, dans l'échange, de grandir, de traverser des obstacles ou simplement d'échanger de l'énergie, que ce soit émotionnelle ou intellectuelle. Elle vous permet aussi de vous découvrir à travers l'autre. Elle est avant tout un avant-garde à l'unicité vers laquelle vous tendez. Elle est aussi un levier formidable pour grandir et elle laisse dans votre être des chemins ineffables. Voilà, cultivez vos amis comme des plantes rares et fragiles, car chacun en a besoin. Je trouvais que c'est un très beau texte. L'amour est un partage qui, multiplié par tous les membres, constituera cette force qu'avaient les Thessaloniciens. La force engendrée par cet amour, soutenu par le Saint-Esprit, nous permettra de vaincre toutes les épreuves. Nous avons une même mission, non pas de plaire aux hommes, mais de plaire à Dieu. Pour protéger cette unité, ne laissons jamais les différences nous diviser, mais concentrons-nous sur l'essentiel, en apprenant à nous aimer les uns les autres afin d'accomplir les objectifs de Dieu. J'ai une grande admiration pour Mère Teresa. C'est un exemple de vie hors du commun. Elle a soigné des malades dans les rues de Calcutta. Elle a créé des hôpitaux, elle a créé des mouroirs pour que les gens ne meurent pas dans les rues et gardent leur dignité. Et bien d'autres choses. Elle a consacré toute sa vie au service des autres. Un jour, elle se trouvait à Washington, au Capitole, et lors d'une conférence, d'un congrès, un sénateur lui dit « Ma mère, vous faites un travail merveilleux. » Elle lui répliqua « C'est le travail de Dieu. » Mais en Inde, où il y a tant de problèmes, reprit le sénateur, pouvez-vous toujours être heureuse dans vos réalisations, n'est-ce pas vain ? Voyez-vous, monsieur le sénateur, nous ne sommes pas toujours appelés à être heureux, mais nous sommes toujours appelés à être fidèles et à servir. Sa réponse lui a été droite au cœur, à ce journaliste, c'est ce qu'il dit. Sa simplicité, son amour pour les autres bouleversait toujours les journalistes qu'il a rencontrés. L'ensemble de la vie et de l'œuvre de Mère Teresa témoigne de la joie d'aimer, de la grandeur et de la dignité de chaque être humain. de la valeur de chaque petite chose faite avec foi et amour, et par-dessus tout, de l'amitié avec Dieu. Un jour, elle déclare à ses religieuses en formation « Dieu aime le monde, l'amour de Dieu est infini, c'est un puits de tendresse et de miséricorde. Dieu aime le monde à travers nous, à travers vous et moi. Cet amour que nous partageons, c'est son amour qui s'exprime dans nos actes. » J'avais envie de vous faire partager ces paroles d'une grandeur rare, d'une petite femme tellement grande qui a vécu toute sa vie en étant la représentante de l'amour de Christ. Si nous nous engageons à remplir notre mission, quel qu'en soit le prix, nous connaîtrons une bénédiction exceptionnelle de la part de Dieu. Et le Seigneur est prêt à tout pour les femmes et les hommes qui s'engagent à son service. Jésus a promis dans Matthieu 6 et au verset 33, et je terminerai par ce verset, « Faites donc du règne de Dieu et de tout ce qui est juste votre préoccupation première, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. » Amen.
Eh bien, pour conclure ce service, c'est Marilyn qui va nous proposer maintenant un chant, n'est-ce pas ? Si je parlais le plus parfait langage.
Si je parlais le plus parfait langage, si même un ange me prêtait le sien, que me vaudrait ce fut-il avantage, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'un airain qui résonne, une cymbale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que Dieu donne. Si je n'ai pas au cœur l'amour, la charité se montre patiente et bienveillante à l'égard du prochain, n'est pas jalouse et non plus ne se vante, ne s'enfle pas d'orgueil ni son dédain. Pleine d'égard, ne fait tort à personne. Tout égoïsme est chez elle écarté. Bonne sirène, jamais ne soupçonne. Réprouve la justice et veut la vérité. Que de douceur et de paix elle apporte, car elle excuse tout, elle croit tout, tout elle espère et tout elle supporte. Mettant son baume et son parfum partout, les plus beaux dons des paresse t'émeure. Cette vertu vit en éternité. Foi, espérance et charité demeurent. Mais de ces toits, la plus grande est la charité. Mais de ces toits, la plus grande est la charité.